8. Faute de mieux. Que le bien vienne immédiatement de toi et le mal par un autre. Prends quelqu'un sur qui tombent les coups du mécontentement, c'est-à-dire la haine et les murmures. Il en est du vulgaire comme des chiens. Faute de connaître la cause de son mal, il jette sa rage sur l'instrument, en sorte que l'instrument porte la peine d'un mal dont il n'est pas la cause principale. Balthazar Gracian. Au bout de 4 longues semaines, l'armée ducale se mit en mouvement. Il avait fallu un mois pour que l'ost soit à peu près rassemblé à Caruel. Des informations mystérieusement arrivées à la connaissance du chancelier Diacekrimen, confirmées 2 jours plus tard par un messager, nous avaient également appris que l'ensemble de l'escadre tchoudalienne mouillait dans les eaux de Longomor. Tout était donc prêt pour entrer en campagne. La veille du départ, il y eut une splendide revue d'armes dans les prairies situées sur la rive droite du Vernobre. Y paradaient des milices bourgeoises, des bandes mercenaires, des troupes féodales venues des îles Maroises, de Belle-Estance, Landevies, Brégor, Traval, Kerlund et Combe-Noir, rangés en un immense échiquier aux cases bigarrées. Sans doute Ganelon alignait-il au bas mot 15 000 gens de guerre. Les 2/3 de cet host étaient formés par l'infanterie. Peu d'archerie, beaucoup de fantassins lourds, casqués et cuirassés, dont l'équipement ne reflétait pas forcément la valeur. Les milices envoyées par Longomor, Caruel ou Menborc rutilaient d'armures qui affichaient davantage leur opulence que leur aguerrissement. Les escouades plus ternes des Soudards ou Romans étaient autrement redoutables. Les gens de pied de certains bancs féodaux, comme ceux de Traval ou de Kerlund, habitués à en découdre avec les pillards venus d'Ouromagne, formaient également des troupes d'élite. C'était toutefois la chevalerie bromaloise qui en mettait plein la vue. Elle déployait sur la plaine sa superbe menaçante. Un énorme escadron de 4 à 5 000 preux, monté sur des bêtes énormes, à l'ombre d'une forêt de lances et de bannières. En découvrant cette muraille de chevaux, d'acier et de soie, j'avais peine à croire que bon nombre de ces colosses étaient les mondains qui la veille encore me daubaient à la cour. Les solerets calés sur l'étrier, le coffre bardé de métal, avec sa parée et empanachée comme une coquette qui va au bal, ils paraissaient plus grands que nature, sublimés par le luxe, la puissance et une passion ancestrale de la guerre. On avait l'impression que rien ne pouvait résister à cette formidable prestance. Le voyage et les taquineries de Clarissima m'avaient fait un peu perdre de vue les objectifs du patron. Mais en contemplant cette force militaire, le bien fondé de la politique du Podestat sautait aux yeux. Mieux valait acheter l'alliance de Bromel. Sitôt cette magnifique parade terminée, les troupes se disloquèrent en vaste bordel. Mon passé dans le régiment Testanegra m'avait certes enseigné que la mise en route d'une armée est tout sauf un début de promenade, mais l'organisation de la phalange tchoudalienne en régiment et en enseigne permettait l'établissement d'un ordre de marche, des départs échelonnés et la prévision des casernements. Les choses paraissaient autrement embrouillées pour les contingents de l'ost ducal. Vu de l'extérieur, cela ressemblait à un gigantesque bazar sans queue ni tête. J'avais le sentiment qu'une petite bande déterminée tombant à point au milieu du déménagement aurait suffi à mettre en déroute tout ce capharnaüm. Car les combattants représentaient moins de la moitié de la foule qui se mettait en branle. Ils étaient appuyés ou encombrés par une multitude de pages, valets, palefreniers, artisans, maquignons et filles à soldats. Les maisons nobles entraînaient dans leur sillage des écuries pléthoriques. Les charrois chargés des bagages seigneuriaux et des forges mobiles engorgeaient le passage. Des kyriels de chevaux de somme bouchonnaient sur les voies. Comme Ganelon faisait mine d'accepter l'invitation du comte de Kimark et se rendait d'abord au tournoi de Lindinas, les dames de la haute étaient de la partie. Les plus fringantes chevauchaient de belles hacnées, mais la plupart se déplaçaient dans des litières aussi fastueuses que des lits de justice. Ces grands meubles aux voilages armoriés tanguaient au milieu des bannières et des buissons de piques. En selle sur des roncins ou des mules, leurs suivantes s'empêtraient dans les convois d'intendance et les colonnes de sergents de pied, qui ne leur épargnaient pas les hommages les plus lestes. Ce grand foutoir partait dans toutes les directions. Les routes du duché étant au mieux des voies charretières, au pis des chemins creux, il était impossible pour la multitude de faire le trajet en masse. Toute une flottille de Toux et de Gabarre remontait un affluent du Vernobre, l'Andoune, vers d'improbables points de ravitaillement. Charrettes, cavaliers, litières, gens de guerre et valetailles s'éparpillaient en autant d'itinéraires que de pistes rayonnant autour de Carwell. Certaines troupes, après la montre, donnaient carrément l'impression de tourner les talons et de rentrer à la maison. Les serviteurs des hôtels ducaux précédaient les avant-gardes au mépris des précautions les plus élémentaires, afin que le campement de leurs altesses soit prêt à l'étape. Toute cette fête traversait les campagnes telle une nuée de sauterelles, laissant derrière elle des chaussées défoncées, des haies ravagées et des prés tondus jusqu'au sol. Normalement, l'ambassade de la République n'aurait pas dû participer à cette équipée. Une fois le reliquat de la dot versé au couple ducal et nos vagues obligations diplomatiques rendues, il était initialement prévu que nous regagnions Longuemort pour participer à l'opération navale. Le coup fourré des fils de Ganelon et du comte de Quimarc avait hélas changé la donne. Cette rébellion maquillée en réjouissance fragilisait la position de la nouvelle duchesse. Au nom des intérêts supérieurs du patron, il convenait de renforcer le parti tchoudalien à la cour. Du coup, au lieu de rejoindre l'escadre de la République, nous étions embarqués dans cette prodigieuse sarabande sans trop savoir où l'aventure nous mènerait. Un jour, on avait l'impression de partir pour une fête galante, armée jusqu'aux dents, et le lendemain de marcher au combat en habit de cour. Le plus fâcheux de l'affaire, c'était que nous voyagions avec l'hôtel de la duchesse. Cela nous valait une double peine. La compagnie quotidienne du seigneur de Vernejoul et de sa digne dame Parvulle. À la détestation qu'il me vouait, je pouvais ajouter un privilège tout personnel. Le mépris de son Altesse Clarissima assorti de toute une série de petites disgrâces qui ajoutaient du pittoresque à l'excursion. La route fut pourtant moins désagréable que le séjour à Carwell. Le désordre permanent dans les colonnes en marche me permettait de prendre la tangente et de trimarder de mon côté. Ouvrant la voie à l'hôtel de la Duchesse, les troupes mercenaires du Grand Bâtard battaient la campagne. Même si Fitzganelon avait été déçu par le grand argentier désargenté, j'avais malgré tout noué sympathie avec lui à la suite de notre rencontre aux deux Bosselles. Il n'était guère prisé par la bonne noblesse, et qui se ressemble s'assemble. Je me méfiais plus que jamais de son lieutenant Aspé Carnéficié, qui n'aurait pas hésité à envoyer certains de ses ouromans régler mon compte. Mais j'aimais bien dégoiser avec Ancelin Leclerc. Quant au Tan Sigarde, il me traitait en compagnon de débauche et m'accueillait toujours dans sa bande avec des rires salaces et des bourrades à vous déboîter l'épaule. Au milieu de cette grossièreté barbare, j'avais l'impression de souffler, soulagé des perfidies bienséantes que me prodiguait l'entourage de la duchesse. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'y retrouvais la rude camaraderie de la phalange. Je restais un chien méchant au milieu des loups. Du moins, l'hostilité et les affronts s'y exprimaient sans phare. Et je maîtrisais mieux ce code-là que les gentillesses fielleuses de l'hôtel ducal. Je profitais également de ces étapes pour aller à la pêche aux renseignements. Il importait de savoir où on mettait les pieds, car si le podestat nous avait préparé à une expédition en Euromagne, en revanche, je ne savais pas trop ce qui nous attendait dans le comté de Quimarc. Le grand bâtard se vantait souvent de ses mauvais rapports avec son puissant voisin. Il avait gagné la seigneurie d'Ouchain par la force des armes, en liquidant l'ancien seigneur qui avait été un vassal du comte Anguzel. Mais hormis des histoires de sièges et de massacres, il n'éclairait guère ma lanterne. Ce fut par son écuyer, Ancelin Leclerc, que j'en appris davantage sur l'origine des différends entre le duc et le comte. Comme souvent chez les maisons nobles, le litige était immémorial. Il remontait à l'époque du royaume de Léomance. En se fondant sur de vieux capitulaires royaux, la chancellerie ducale affirmait que le comté de Quimarc était un fief vassal de Bromel. Les Quimarc, quant à eux, rétorquaient que les archives bromaloises comportaient des faux grossiers. Les comtes prétendaient qu'à l'époque du vieux royaume, il prêtait directement hommage à la couronne. La chute de la Léomance à la fin de la guerre des grands vassaux les avait donc libérés de toute tutelle, et ils affirmaient exercer de plein droit une souveraineté indépendante sur le comté, par la seule grâce du resplendissant. Depuis 2 siècles, la querelle envenimait les relations entre le duché et le comté. Cela n'empêchait pas les Bromel et les Quimarques de s'allier à l'occasion contre les clans barbares, ni d'unir leurs enfants en des mariages remplis d'arrière-pensées. Mais chaque famille campait fermement sur ses positions, et cela finissait régulièrement par dégénérer. 25 ans plus tôt, au cours de la guerre du Hériban, Ganelon avait obtenu le soutien d'Anguzel de Quimarque en s'engageant à reconnaître l'indépendance du comté. Mais une fois sur le trône ducal, il avait atermoyé pendant plusieurs années, tant et si bien qu'Anguzel avait fini par reprendre les armes. C'était à l'époque du siège de Kelsbruck, quand il avait cru Ganelon affaibli par les dettes qu'il devait rembourser à Tchoudalia. L'affaire avait été terrible. Ganelon avait sacrifié Kelsbruck pour en finir avec Anguzel. Il n'avait obtenu qu'une demi-victoire, en particulier grâce à la résistance de la ville de Mormark, où s'était illustré un certain chevalier de Vaumacel, qui devait plus tard servir, à son insu, les intrigues de mon patron. Mais Ganelon, pris à la gorge par les raids ou romans sur ses arrières et par ses problèmes financiers, s'était contenté de l'hommage formel d'Anguzel de Quimarque et de la confiscation d'Ouchin, sans pousser son avantage jusqu'à se débarrasser de son remuant cousin. D'après les explications que me donnait le clerc, il était évident que le comte de Quimarque se souciait de la duchesse répudiée comme de sa première paire de chausses. Il tirait simplement prétexte du remariage du duc pour appuyer la rébellion de ses fils dans l'espoir de recouvrer son indépendance. Au cours du siège de Kelsbruck, je m'étais frotté de plus près à un autre capitaine avec lequel nous croiserions probablement le fer lors de l'offensive contre les terres barbares. Il s'agissait du voïvode Brankovan, chef du clan Oer. L'assaut féroce qu'il avait donné 10 ans plus tôt contre la cité ducale, le sac et l'incendie de la ville, dont nous avions abandonné la défense pour sauver l'or de Tchoudalia, m'avaient laissé de pénibles souvenirs. Probablement enrichi par le pillage de Kelsbruck, Brankovan avait prospéré au cours des années suivantes, au point de devenir l'une des puissances de l'Auromagne. Ce fut auprès de Sigard que j'en appris davantage à son sujet. Implanté dans une région sauvage, sur une marche entre l'Auromagne et les steppes de Féménie, le clan Oer avait longtemps fait partie des peuples barbares, versant un tribut aux nomades bégards. Brankovan avait commencé par se libérer de ce joug. Ce succès lui avait valu un grand prestige dans les clans et attiré dans son entourage quantité de guerriers, ainsi que de mystérieux sorciers venus des Landes grises. Fort de ses ralliements, le voïvode s'était lancé à la conquête des terres voisines. Il avait commencé par attirer dans un traquenard son beau-frère, Bratislav, qu'il avait égorgé par traîtrise. Ayant pris le contrôle de ses hommes, le clan Froya, il s'était ensuite attaqué à Geza, chef des Sornis, qui avait dénoncé le meurtre. Mais les guerriers Sornis, effrayés par la supériorité des troupes de Brankovan et par les maléfices de ses sorciers, s'étaient soumis sans combattre. Pour échapper à la mort, Geza s'était enfui chez les Hartclyde et avait demandé la protection du roi Ferbasak. Poursuivant sur sa lancée, Brankovan avait ensuite attaqué le clan Catuat et en avait fait un carnage à la bataille du Val des Tourbières. Nul ne savait exactement quel avait été le sort de Lulak Ap Colwyn, le chef vaincu. Mais il était de la parenté du roi Ferbasak, qui avait alors pris les armes contre Brankovan. Les Hartclyde formaient un clan ancien et puissant qui disposait de peuples clients comme les Wigan ou les Kriegsmand. Le choc entre les deux hordes barbares, à la bataille du Pain Tordu, avait été terrible. Les forces de Brankovan avaient d'abord pris le dessus. On aurait vu des Drogars parmi ces guerriers, dont la présence aurait semé l'effroi dans les rangs Hartclyde. « C'est quoi des Drogars ?» avais-je demandé. « Des créatures maudites !» avait répondu Sigard en baissant le ton. « Des morts sans repos !» Pareille histoire me paraissait difficile à avaler. De fait, il y avait eu des combattants dans l'entourage de Ferbassac qui ne s'étaient pas laissés intimider par ce qui n'était peut-être qu'une ruse de guerre. C'était le cas en particulier d'un fou furieux appelé le Drot, qui avait chargé la garde de Brankovan et avait été à deux doigts de le tuer. D'après le Tan des Orsin, ce guerrier fauve était un autre mystère. Quoique d'origine ou romande, il était sorti des Landes Grises. Cherchant à se venger des sorciers qui avaient embrassé la cause de Brankovan, le Drot s'était rallié aux Artclyde. Au combat, il se montrait d'une sauvagerie si inouïe qu'il paraissait invincible, et il avait donc réussi à rétablir l'équilibre des forces entre les deux camps. En définitive, la bataille du Pain Tordu avait été une tuerie sans vainqueur ni vaincu. Les survivants de chaque armée avaient battu en retraite dans l'espoir de se refaire plus vite que l'ennemi. Ces sanglantes discordes offraient une opportunité évidente à Ganelon de Bromel. Pour le duc, c'était le moment d'entrer en lice et d'achever des adversaires qui avaient déjà un genou à terre. Une occasion pareille ne se représenterait peut-être pas de sitôt. J'en déduisais que Ganelon cherchait à régler au plus vite le problème que lui posaient ses fils et le comte de Kimark par des moyens suffisamment conciliants ou détournés pour récupérer leur soutien, au moins temporairement. La campagne contre Louromagne serait peut-être retardée, mais elle ne me paraissait pas vraiment compromise. Je voulus alors en apprendre davantage sur les forces que l'Ost Ducal aurait à affronter quand il aurait franchi la Claye, et sur les peuples que l'escadre tchoudalienne rencontrerait au-delà de Vekinsberg. Ses gardes m'apprirent que l'armée bromaloise se heurterait d'abord aux clans Isenvirta et Slagsbroder, tandis que la flotte remonterait une côte montagneuse tenue par les Semans. Mais derrière ces clans indépendants, la force d'invasion empiéterait assez rapidement sur le territoire des Artclyde et de leurs clients. « Pris entre le marteau et l'enclume, » observai-je. Ils vont être à la fête. Ce sera bien fait pour leur gueule, à ces chiens arrogants, ricana le Tan des Orsin. Mais il ne faut pas vendre trop vite la peau de l'ours. Les Arclides sont des durs, leurs terres sont froides et montagneuses. Les débusquer dans leurs trous, ce ne sera pas une partie de plaisir. Et puis, il faut se méfier de Ferbassac. C'est un drôle d'oiseau. Un malin qui a plus d'un tour dans son sac. Je ne savais que trop, pour les avoir vus à l'œuvre, que les Ouromans étaient capables d'une audace, d'une brutalité et d'une cupidité sans pareil. Mais j'avais un peu de mal à croire qu'un chef de ces rustos soit capable de ruse. Sans rien montrer de mon incrédulité, je fis mine de m'intéresser au roi Artclyde. Ferbassac est un bon guerrier, m'apprit Sigard. Mais c'est surtout un beau parleur. Il y en a beaucoup dans les clans qui pensent qu'il a roulé presque tout le monde chez les Arclyde. Il raconte qu'il est le fils d'Indulf, le précédent roi. Mais ce n'est pas sûr. En tout cas, les autres fils d'Indulf, Jirik et Sinked, ont proclamé que ce n'était pas leur frère. Mais est-ce qu'ils disaient la vérité? Va savoir. Ils avaient intérêt à le traiter de menteur quand il a cherché à les détrôner. C'est un bâtard ? Le Tan fit un signe de dénégation. Ferbassac était bien le fils légitime d'Indulf et de sa première épouse, Gruok, dit-il. Il y a un truc à savoir. Chez les clans, on ne fait pas de manière. Quand un homme est puissant, il peut prendre des concubines en plus de sa femme. Indulf avait donc une seconde épouse, Suten, qui lui a donné deux fils, Jirik et Sinked. Ça doit mettre de l'ambiance dans les successions. Sigard partit d'un gros rire. Chez nous, pas de place pour les faibles. C'est le plus fort qui hérite. Les fils d'Indulf se sont bouffés le nez et c'est Ferbassac qui a gagné. En gros, oui. Mais ce coup-là, l'histoire a été assez bizarre. C'est pour ça que Sinked continue à raconter que Ferbassac n'est pas son frère. D'ailleurs, il a rejoint le camp de Brankovan. Et ça ressemble à quoi, une histoire bizarre chez les Ouromans ? Bizarre, ça veut dire bizarre, crétin de Tchoudalien. Quand Ferbassac était gamin, un jour, il a disparu. La hirde royale et la famille de sa mère l'ont cherché partout, sans retrouver sa trace, escamoté. Un vrai tour de magie. On a cru qu'il était tombé dans un puits, ou dans une crevasse, et tout le monde a pensé qu'il était mort. Ensuite, les années ont suivi leur cours. Indulf a vieilli, et puis il a passé l'arme à gauche. Jirik et Sinked, les fils de sa concubine, se sont disputés le pouvoir. Les Artclyde se sont divisés, mais la guerre de succession ne donnait rien. Là-dessus, voilà que Ferbassac réapparaît. 15 ans après sa disparition, le voici de retour. 15 ans après, c'était un imposteur. En tout cas, c'est ce qu'ont dit Jirik et Sinked. Mais la vieille Gruok, elle, a juré qu'elle avait reconnu son fils à un signe de naissance. Il y avait aussi pas mal de Karl qui trouvait que c'était le portrait craché d'Indulf dans sa jeunesse. Et puis, surtout, Ferbassac est un sacré baratineur. Il a débauché plein de guerriers chez ses deux frères. Finalement, Jirik et Sinked se sont alliés contre lui, mais ils ont perdu. Quand ils ont été capturés, ils ont été amenés devant le vainqueur qui leur a demandé de reconnaître son pouvoir. Jirik a accepté, Sinked a dit qu'il préférait crever. Alors, Ferbassac a fait tuer Jirik, parce qu'il ne le croyait pas, et il a relâché Sinked pour récompenser sa franchise et son courage. Ce jugement a frappé les esprits. Ça a consolidé l'autorité de Ferbassac sur les Karl Artclyde. C'est pour ça que je te dis que c'est un malin. Est-ce que c'est réellement le fils d'Indulf? J'en sais foutre rien. Mais pour être arrivé là où il est arrivé, tu peux me croire, c'est un vrai renard. À vrai dire, ces rumeurs sur le compte des chefs barbares ne furent pas les seules choses que j'appris au contact de Sigard et de ces brutes. Au cours de ces quelques jours de marche, ils m'enseignèrent à distinguer un guerrier ours d'un guerrier loup. Ils m'expliquèrent obligeamment que le meilleur moyen d'empêcher un esclave de s'évader consistait à lui trancher un jarret. La formation militaire du groin de porc n'eut plus de secret pour moi. Enfin, mon répertoire d'injures en dialecte ou roman s'accrut de façon très significative. Toutes ces nouveautés ne manquaient pas de pittoresque aux yeux d'un citoyen de la ville la plus raffinée du vieux royaume, mais je ne jugeais pas utile d'en donner le détail au neveu du podestat. En revanche, les informations sur Brankovan et Ferbassac l'intéressèrent au plus haut point. Cesarino n'était d'ailleurs pas en reste dans notre quête de renseignements. Il me rapporta un bruit qui courait dans l'entourage du connétable. Clodas de Kimark, le fils du comte Anguzel, connaît sans doute Ferbassac à Pindulf, me confia-t-il. Leurs hommes se sont affrontés dans quelques escarmouches, et ils se seraient rencontrés à l'occasion de pourparlers. Depuis Carwell, il nous fallut 4 jours pour gagner le lieu de rencontre avec le comte de Kimark. 4 jours à un rythme de limaçon, sur les chemins embouteillés et sans marcher droit vers le point de rendez-vous. On contourna assez largement un massif de hautes collines par l'ouest. Le grand bâtard se vantait d'y avoir conquis le fief d'Ouchin, mais regrettait que les routes n'y soient pas très carrossables. Il pestait également contre les brigands qui infestaient ses forêts. Des pandars sans foi ni loi, menés par un gredin surnommé le Molosse d'Ouchin. Son écuyer m'apprit par ailleurs qu'au nord-est de la région se trouvait le fief de Vert, solidement tenu par Méléagan de Bromel. Sa loyauté à la duchesse répudiée aurait pu le pousser à des initiatives irréfléchies contre l'armée ducale, ce qui justifiait également le détour. Les terres de Kimark paraissaient aussi fertiles que celles de Bromel. Cependant, on sentait bien qu'on changeait de fief en abordant le comté. Les villages qui avaient souffert de la guerre 10 ans plus tôt paraissaient rabougris en comparaison de ceux de la vallée du Vernobre. On croisait plus souvent des maisons fortes et des fermes fortifiées dans les campagnes. De loin en loin, des tours de guet semblaient surveiller la marche du duché. À certains carrefours, des gibets élevaient leurs fourches sinistres, comme autant de démonstrations de justice seigneuriale. L'armée ducale passa également au large d'un vaste château qui occupait l'un des derniers contreforts des hautes terres d'Agurande. Il s'agissait d'une forteresse impressionnante, mais inachevée. Certaines tours étaient encore couronnées d'échafaudages volants et de roues de carrier. Toutefois, les murailles paraissaient déjà intimidantes. D'autant que leurs fondations étaient bastionnées par des palissades et des barbacanes neuves. Les chevaux courants de Kimark flottaient sur les bannières des plus hauts pignons. J'appris par le clerc que cette place forte s'appelait Neuvidine. Le comte Anguzel avait englouti des sommes astronomiques dans sa construction afin de remplacer le château d'Ouchain conquis par le grand bâtard. Le lendemain, on arrivait enfin au lieu de rendez-vous. C'était à se demander pourquoi on s'était traîné par milliers sur de mauvais chemins. Le tournoi avait lieu au milieu de nulle part. Peut-être qu'aux yeux d'âme bucolique, ce petit coin de campagne n'était pas dépourvu de charme. Il comportait aussi quelques commodités, comme un grand plan d'eau pour abreuver les chevaux, ainsi que de vastes prairies où les champions pourraient frimer à leur aise sur leurs gros canassons. Mais quand même, l'Indinas, c'était la cambrousse. Le château? Ah oui, parlez-moi d'un château. Tout juste une bicoque avec un gros mur et une tourelle d'angle. À peine si on aurait pu y loger 100 personnes. Cela n'avait rien à voir avec l'impressionnante forteresse de Neuvidine. Et alentour, pas le moindre bourg. De la lande, des bosquets, des pâtures à perte de vue, à en attraper la courante. Le trou du cul du comté. Voilà où on était tombé. J'aurais été à la place du duc et de ses grands commis, j'aurais plutôt mal pris la plaisanterie. Cela n'eut pas l'air de les chagriner. En fait, la plupart des gentes dames et nobles seigneurs étaient contents d'arriver et de planter leur tente. C'est d'ailleurs à cela qu'on reconnaît que la noblesse bromaloise, malgré ses grands airs, ses chichis et ses lignages longs comme le bras, reste un ramassis de bouseux, m'as-tu vu. Ça lui faisait manifestement plaisir de camper au grand air et de patauger dans la glèbe. Toute la bonne société se retrouvait pour une énorme partie de campagne. J'avais failli couler avec la Frivoletsa et ses 400 000 florins au large de Mélesme, tout ça pourquoi? Pour financer un pique-nique classieux. Je dois avouer qu'en arrivant à l'Indinas, je l'avais mauvaise. Il faut bien reconnaître qu'en y mettant de tels moyens, les noblaillons locaux organisaient une sacrée fête. Comme si on avait déjà été en campagne, en fait, on l'était peut-être bien. Le comte et le duc avaient disposé leur camp de part et d'autre du champ de guerre. Puisqu'il s'agissait de maquiller les hostilités et de les faire passer pour une rencontre sportive, les gens de Kimark se faisaient appeler du « dedans », parce qu'ils étaient les hôtes, et ceux de Bromel se disaient du « dehors », parce qu'ils étaient invités. Chaque campement faisait la taille d'une petite ville, et s'étalait aussi pimpant qu'une foire. Aux yeux du soldat que j'avais été, tout y était fait en dépit du bon sens. D'abord, personne n'occupait véritablement le château, qui était librement accessible aux deux parties. Ensuite, les camps étaient certes délimités par des barrières, mais elles n'avaient rien de défensif, de simples mains courantes habillées de toiles colorées que le premier galopin venu aurait pu franchir d'un bond. Alors d'accord. L'intérieur grouillait de gens de guerre, de faisceaux d'armes et de forges mobiles. Mais il s'y mêlait des dames en beaux atours, d'aguichantes suivantes, des bénéficiants goguettes, des montreurs d'ours, des gratteurs de mandor, tout un peuple de larbins, cuistots, mitrons, bourreliers, bottiers, tailleurs et chapeliers, un immense bordel. Un étalage provisoire de superflu et de puissance et une parfaite ineptie militaire. Tisserand et toilier de Carwell, ayant été pris d'assaut par la noblesse en quête de pavillon, il avait été impossible de procurer une tente à l'ambassade tchoudalienne. Nous avions alors décidé de démonter la banne du carrosse de la Sfatchiata pour en faire notre guitoun. Cela donnait un long vélum aussi élégant qu'inconfortable, rempli de courants d'air, qui se distinguait des tentes de laconiques du voisinage. Quand les valets et les phalangistes de notre escorte avaient terminé de monter notre résidence, j'avais décidé de faire quelques repérages dans le campement, histoire de voir comment s'était logé le voisinage et quelles maisons nobles partageaient notre carré de verdure. Il n'était pas difficile de situer le pavillon ducal. Un énorme chapiteau à plusieurs mâts, aussi spacieux qu'un manoir et tout pavoisé des armoiries de Brommel. Je me gardais d'en approcher, peu disposé à me rappeler aux bons souvenirs de la duchesse. Je me contentais de vagabonder entre les quartiers des grandes maisons et les bivouacs de la soldatesque. J'avais souvent le nez en l'air, en quête de bannières et de blasons, bien que je m'y sois perdu dans l'héraldique locale. Alors que j'étais ainsi distrait, je me fis bousculer. Mon sang ne fit qu'un tour et je mis la main à l'épée. Le maroufle qui m'avait heurté était un blondin, traînant derrière lui une haridelle. Il se montra aussi surpris que moi par la collision. En fait, il affichait une mine assez ahurie. Et je trouvais que, des deux, le cheval avait l'air plus malin que le maître. N'empêche que le lourdeau était joliment charpenté, plus grand que moi, avec un râble de débardeur. Un instant, je crus qu'il s'agissait d'une des agaceries de Clarissima, qui m'aurait jeté dans les jambes un sbire sans cervelle. Le blondin portait un costume noble, mais taillé dans des étoffes modestes, et je devinais l'écuyer ou le chevalier sans fortune, manipulé par les intrigues d'une grande noblesse dont il avait peu l'usage. Toutefois, un détail me fit rapidement réviser mon jugement. Le balourd portait trois brins d'immortel au revers de son surcot. C'était le signe de ralliement des agités qui prétendaient défendre le droit de l'ex-duchesse. J'avais affaire à un partisan du comte de Kimark et des fils rebelles. Et mon couillon se promenait bien tranquille au milieu du campement ducal sans que personne ait pris la peine de le prendre au collet. Car c'était visiblement un couillon. Il avait vraiment la tronche d'un nigaud. Si nigaud qu'il s'était peut-être trompé de camp. Je n'allais quand même pas perdre mon temps avec une betterave à la manque. Alors, sans même me fatiguer à parler en léonien, je lui dis gentiment d'aller se faire foutre. Et puis je passai mon chemin. N'empêche, ce ramponneau me donna du grain à moudre. En Brommel, on poussait la courtoisie jusqu'à des sommets d'aveuglement, jusqu'à laisser circuler l'adversaire au cœur de ses positions. Les truands des ruelles bornes de Tchoudalia mettaient plus de cœur à défendre leur territoire que l'armée ducale ses propres quartiers. Dans ce cas, pourquoi ne pas profiter de la niaiserie ambiante? Je saisis l'opportunité. Je décidai de pousser une reconnaissance chez l'ennemi. En plus, je n'avais même pas à me changer pour infiltrer le camp d'en face. J'étais déjà sur mon 31, et le meilleur moyen de passer inaperçu au milieu de tout ce beau linge, c'était encore de parader en mirliflore. Je fis mine de vouloir prendre l'air et je franchis tranquillement les barrières. Ma flânerie paraissait d'autant plus innocente que je n'étais pas le seul promeneur. Des gens venus des deux campements se retrouvaient au milieu du pré, des intrigues galantes se nouaient sous les pommiers en fleurs, à l'ombre du château. Une bande de cavaliers sortit du camp ducal peu après moi pour se diriger à petite allure vers un arbre où, assez bizarrement, on avait suspendu des boucliers comme des robes asséchées. L'escadron était mené par mon copain le grand bâtard, accompagné par ce raseur de Vernejoul et par le baron du Trèfle. L'imbécile qui avait si sérieusement échauffé le duc en laissant filer son fils cadet et le chevalier de Vaumacel. Il se dirigeait vers un groupe de seigneurs qui bavardaient sous la ramée pavoisée. La rencontre n'aurait sans doute pas été dépourvue d'intérêt, mais je m'étais si souvent farci ollier de l'Aulnay au cours du voyage que je ne leur emboîtais point le pas. Au lieu de cela, j'entrais dans le camp de Kimark comme dans un moulin. Ce fut à peine si un ou deux sergents d'armes me jetèrent un regard torve au passage. 20 pas plus loin, au milieu des camelots qui encombraient ce campement, je tombai sur une petite marchande de bouquets. Je lui achetai sans mégoter, mais à un prix vraiment déraisonnable, 3 brins d'immortels que j'accrochai à la boutonnière et passai muscade. J'avais mon déguisement de rebelle. Et me voici en train de baguenauder entre les piquets d'armes de la milice de Mortemarc, les ferronniers de la maison comtale et les écuries de l'arrière-ban de la Clay. Parmi les effectifs de gens de pied, je notai la présence d'une ou deux compagnies d'arbalétriers avec lesquelles il faudrait compter si l'empoignade devenait générale. Je pris même le temps de siroter un petit pivois, un peu vert à mon goût, sous l'auvent d'une buvette. Le camp du « dedans », à l'instar de celui du « dehors », faisait étalage de luxe et de puissance, mais me semblait un peu moins étendu que les positions ducales. On ne pouvait pas rater le grand pavillon d'Anguzel de Kimark, splendidement brodé de chevaux courants et cabrés, d'où s'échappait un tumulte de conversation et de musique. La tente comtale, malgré tout, me parut un peu moins spacieuse que les quartiers de Ganelon. Après avoir fait un petit tour du côté de l'intendance, pour estimer à vue de nez le nombre de charrois qui approvisionnaient l'armée de Kimark, je repris tranquillement le chemin des barrières. Je ricanai in petto sur l'inconscience de la noblesse locale qui laissait n'importe quelle gobe mouche furetée dans sa boutanche lorsque l'impensable se produisit. Je me fis épingler. « Bouche cousue !» rugit dans mon dos un organe de stentor. Le cri me cueillit à l'improviste et faillit me couper les jambes. C'était un sobriquet que j'avais naguère porté au cours d'une des périodes les moins glorieuses de mon existence, qui ne manquait pourtant pas d'épisodes cocasses et scélérats. Crier ce blaze en plein vent, c'était démasquer mes manigances de cafard devant toute la galerie. Je fis la sourde oreille et poursuivis ma route, en ayant soin de ne pas accélérer le pas. Après tout, j'avais peut-être mal compris, ou on s'était adressé à quelqu'un d'autre. « Hé, bouche cousue !» beugla le malotru deux fois plus fort. Impossible de continuer à faire l'innocent. Le braillard avait un coffre phénoménal. On avait dû l'entendre dans la moitié du campement. Je m'immobilisai donc, et effleurant des doigts la garde de l'épée, je me retournai lentement avec ma tête des mauvais jours. Derrière moi, je découvris un grand bric-à-brac, le tréteau d'une scène que bricolaient des baladins.
« Ha ha ! Visez-moi cette sale gueule !»
vociféra l'indiscret sur un ton triomphant.
« J'avais raison, c'est lui, c'est bouche cousue !»
Perché sur l'estrade, mon braillard était une demi-portion absolument grotesque. Un abot haut comme trois pommes et plus trapu qu'une barrique, d'une laideur si redoutable que j'aurais pu passer pour une reine de beauté à côté de lui. Je le remis au premier coup d'œil, et j'en restais comme deux ronds de flanc. Car ce nain chauve et abondamment barbu, la trogne bourgeonnante de coupe rose, dont les braiements découvraient une gencive largement dégarnie, qui pouvait-il être sinon ce mauvais drôle de mère folle? Quant au maladroit qui, voulant s'improviser menuisier, avait manifestement tapé sur son pouce plutôt que sur ses clous, n'avait-il pas la dégaine de Coquimbert, le vieil écolier docteur S. Filoutry? Mais les vauriens qui me firent le plus d'effet furent sans conteste les deux mignards qui leur tenaient compagnie. L'un et l'autre d'une délicatesse insolente, avec un charme à tomber raide et un minois à ramasser les cœurs par dizaines. Des elfes, bien sûr. Les elfes de la compagnie folle, mais de fripouilles d'elfes. J'en conçus une joie si vive et si inattendue qu'elle me donna le frisson. À peine en leur présence, et je me sentais à nouveau ferré. Le temps de réaliser que j'avais affaire aux joyeux drilles, le nain avait sauté de son tréteau, s'était vautré comme un étron, puis, à peine relevé, avait trotté vers moi de toute la vitesse de ses jambes torses.
« Bouche cousue !»
mugissait-il à plein poumon tout en ouvrant les bras. En un instant, il m'étreignait les jambes et frottait amoureusement sa joue barbue contre ma braguette. Coquimbert l'avait presque aussitôt rejoint et m'avait embrassé avec fougue, ce qui n'était pas sans danger puisqu'il n'avait pas lâché son marteau. Je dois bien avouer que j'étais ému de retrouver ses crapules. Je n'en eus pas moins le réflexe de plaquer une paume sur mon aumônière. Les deux elfes, quant à eux, n'avaient pas bougé. À Noët, le ménestrel, assis au bord de la Seine avec le luth sur la cuisse, m'avait juste gratifié d'un sourire complice. Erin Main d'Argent, bizarrement couronnée de bois de serre, m'adressa une ébauche de révérence. Cela faisait près de 2 ans que j'avais faussé compagnie à leur société folâtre, Et pourtant, les deux charmeurs ne paraissaient ni froissés ni surpris de me retrouver. J'aurais pu croire les avoir quittés la veille.
« Regardez-moi ces fringues !»
s'exclamait le nabo en me plottant sous toutes les coutures.
« Mais t'es sapé comme un prince, mon cochon !»«
Et toi, mère folle, tu tapes du goulot comme jamais !»
Au moins, t'es toujours aussi mal poli. Ah, ce que ça fait plaisir. Je peux lui casser la gueule, Erin. Dis, je peux.
Main d'argent qui venait de retirer ses étranges cornes finit par sauter à terre et se dirigea vers nous avec nonchalance.
Fais ce que tu veux, mère folle, ma jolie, répondit-il d'un air badin. Point ne suit de ceux qui blâment les chatteries.
Où est-ce que t'as barboté cet accoutrement?
S'extasiait Coquimbert, tandis que le nain me bourrait les cuisses de coups affectueux.
« Tu portes plus d'or sur le dos que tout ce que j'ai jamais gagné au dé. »
Quand j'avais partagé leur ribote à Bourpreux, les fêtards de la compagnie folle m'avaient connu plutôt impécunieux. Comme j'avais pris soin de leur cacher ma véritable qualité, la plupart d'entre eux ne m'avaient jamais considéré que comme un pote de beuverie un peu louche, souvent ratissé mais précieux dans les castagnes d'ivrogne. Forcément, mon bonnet à médailles, mon pourpoint galonné et mes chausses de fine soie leur en mettaient plein la vue.
« Tu es en train de mitonner une carambouille ?»
me demandait le vieux cancre sur un ton envieux.
« Tu nous mets au parfum ?»«
Et vous alors, qu'est-ce que vous trafiquez à l'Indinas ?» rétorquai-je aussi sec.
J'espérais que cette dérobade un peu grossière le conforterait dans l'idée que j'étais là pour monter une escroquerie.
« Hé, comme toi, l'ami, on vient palper du velours !»
Le comte Anguzel recrutait des baladins, ajouta Erin. « Nous voici tels quels devenus ses comédiens.
Demain, pour ouvrir les fêtes de l'adoubement et du tournoi, nous allons créer une pièce du tonnerre !»
s'écria Coquimbert.
« On est en train d'y mettre la dernière main, ça te dirait d'en être ?»
Mère folle, emballé par cette idée, sourit de toutes ses pattes doigts en soulevant de gros poings enthousiastes.
« Ouais, ce serait trop génial » beugla-t-il. « Ce qu'on va se marrer ! Dis oui, bouche cousue, dis oui, allez, dis oui !»«
Non, mais vous m'avez vu ? Vous trouvez vraiment que j'ai une gueule de paillasse ?»«
On s'en fout !»
brailla le nain.
« C'est ça qui est drôle !»«
Ah, lâchez-moi, bande de bobèches. De toute façon, comment je l'apprendrai, votre texte, d'ici demain ?»
« Qu'est-ce que tu crois ?» répliqua Coquimbert. « Nous non plus, on le connaît pas. De toute façon, il n'est pas terminé. On jouera à l'improvisade. »«
Allons, ça suffit, laissez donc bouche cousue !» intervint Erin d'un air désabusé. « Il en a fini avec nos coxigrues. »
Tout en prononçant ces paroles, il m'avait passé un avant-bras sur l'épaule et s'était mollement appuyé contre moi. J'avais rarement eu l'occasion de toucher ce feu follet. À travers les vêtements, je sentis un corps souple, presque frêle, et pourtant débordant de vitalité rentrée. Il avait la laine plus fraîche que celle d'une fille, et ses cheveux fous, en me frôlant la joue, me chatouillèrent comme du duvet. J'en perdis ma langue, et je vis le même sourire canaille se peindre sur les trognes de mère folle et de Coquimbert. Comme pour me donner le coup de grâce, Annoette, qui n'avait pas quitté son estrade, se mit à pincer distraitement les cordes de son luth. Sa mélodie un peu étrange, colorée de mélancolie rieuse, me frappa droit dans le saignant. D'un seul coup, une énorme bouffée de nostalgie me gonfla le buffet. Toute l'insouciance de l'hiver, naguère passée à Bourpreux avec ses turlupins, revint me faire tourner la tête. Je revis les charivaris, le jeu du cocu, les batailles de boules de neige, les tricheries aux cartes, les bagarres dans les estaminets, et j'en éprouvais un bonheur aussi intense qu'impromptu. Pendant que me grisaient ces réminiscences, Erin me vola tranquillement mon chapeau, s'en coiffa, puis me couronna de son serre-tête à cornes.
« Alors, c'est d'accord ?»
insistait Mère folle.
« Tu en es ?»
« Pas possible, balbutiai-je. J'ai des trucs à faire. »
Et pourtant, la tentation était vive de tout lâcher. L'ambassade, la fréquentation traîtreuse de Dilettino Scernitore, les calculs du patron, les mesquineries de la duchesse, pour repartir faire la fête avec ses écervelés. En quelques instants, Depuis que ces gredins venaient de m'envelopper de leurs caresses, un poids énorme venait de s'envoler de mes épaules. C'était comme une révélation. Je réalisais que jamais je n'avais été aussi heureux qu'à l'époque où je tirais le diable par la queue avec la compagnie folle. Tout cela, bien sûr, n'était que dangereuse illusion. Au fond de ma caboche persistait une flammèche de lucidité. Il m'avait pris à l'improviste. Les barbeaux me faisaient le tas. J'étais en train de retomber sous le charme des elfes. La vérité, c'était que mes frasques preux-bourgeoises, avec ses étourneaux, avaient tourné à la catastrophe. J'y avais claqué mon pécule, grillé ma couverture, manqué d'être tué, et tout cela s'était terminé par deux morts d'hommes, dont celle de mon plus vieil ami. Si j'entrais à nouveau dans cette sarabande à Lindinas, le résultat serait probablement aussi glorieux. Il fallait absolument me dépêtrer des enjôleurs avant que les vassaux du comte Anguzel ne me démasquent, ou que mes bienfaiteurs de l'hôtel de la Duchesse n'apprennent que je m'acoquinais avec des battleurs. « Je s'abiche drôlement de vous avoir ramarré les poteaux !» lançai-je à cette bande de faquins. « Mais là, j'ai vraiment un truc sur le feu et il faut que je m'esbigne. Si on se retrouvait plus tard, on pourrait pitancher ce soir et nourrir un ou deux marmots. » Ce fut assez difficile de me dépatouiller du traquenard. J'enfonçais jusqu'aux yeux la coiffe cornue sur le chef de mer folle, qui ne voulait pas me lâcher, puis récupérais mon chapeau. Le nain s'accrochait à mes aiguillettes comme une casserole qui doit beaucoup à la maquerelle. Je parvins à m'en débarrasser en lui suggérant de pourvoir à la bibine. « On en cause ce soir !» insistait Coquimbert. « On trinquera à l'amitié et puis on te préparera un petit rôle. Eh, pas de coup fourré, hein? Tu ne te patineras pas !»« Comment je pourrais la faire à l'envers, à de vieux Zig? Ça fait tellement plaisir de vous retrouver !» Les deux elfes me coulèrent un sourire narquois. Je pris la tangente dès que je le pus, en jurant sur la tête de ma mère que je serais de retour avant la fin de la journée. Une fois délesté des importuns, je quittai le camp de Kimark et ses périls le plus vite possible. La force du regret qui me nouait le gosier était le meilleur des avertissements. Il était hors de question que je tienne parole. Ce fut le lendemain que tout commença à partir en quenouille. C'était jour d'adoubement pour Blancandin de Bromel. Dans un esprit de conciliation, le duc avait accepté de se prêter à la cérémonie et même aux joutes qui devaient suivre. Cette concession de taille était surtout destinée à donner le change au comte Anguzel, comme aux deux princes rebelles. Il s'agissait bel et bien de leur jeter de la poudre aux yeux. J'avais appris par l'intermédiaire de Cesarino et du grand bâtard que la rencontre serait complètement truquée. Ganelon avait peaufiné ce coup tordu avec son conseil privé. Le stratagème consistait à donner la suite du tournoi pour enjeu des premiers combats. Si les chevaliers du col l'emportaient au premier jour, Kimark et les rebelles s'engageraient à suivre l'armée de Bromel dans sa campagne romande. Si les partisans de la duchesse répudiée triomphaient, le grand tournoi de l'immortel aurait lieu le lendemain. Or, le noble duc, avec le concours d'honnêtes vassaux, avait complètement pipé la partie. J'avais d'abord su par le grand bâtard qu'un des chevaliers adverses, un certain Vichard de l'Audunais, venait d'être secrètement acheté par le chancelier Diatchekrimen. Le bruit avait également couru que, fidèle à son naturel pétochard, le chevalier de Vaumacel faisait faux bond au tournoi, comme il l'avait fait un an plus tôt au procès de la duchesse Odéarde. Dans la nuit qui précédait l'adoubement, Cesarino était revenu tout guilleret du pavillon ducal. Le baron Échivard de Maginois, ayant rappelé son fils d'Ilsin à l'ordre, venait de le faire rentrer dans le rang. Une des dames de la cour, Hérambourg de Brégor, avait aussi retourné en douce un autre des champions du dedans, un cœur d'artichaut nommé Ivorin de Kéan. Au moment de gagner nos lits, le neveu du podestat m'avait assuré que le duc était de fort bonne humeur. Au matin, ses fils seraient vaincus à peu de frais et la vraie guerre pourrait s'engager.